إله الكون قد أسلمت لك.
Comprendre l'islam.
يا إله الكون قد أسلمت لك.
Une émission présentée par Malika Lafer, Kamel Shekat et Saïd Boutarfa. Réalisée par Youssef Nedjimi.
Amis auditeurs, bonjour. Messieurs, bonjour.
Bonjour, Malika.
Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'image de Dieu dans l'expérience donc religieuse, également dans les différentes confessions qui existent. Depuis l'aube de l'humanité, la représentation divine a connu des phases d'occultation.
Déjà, quand le Coran nous parle des polythéistes de l'ère pré-islamique, dans certains versets, vous lirez « وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » Beaucoup d'entre eux ne croient qu'en étant de parfaits associateurs, c'est-à-dire qu'en croyant en Dieu, puisqu'il y a un autre verset qui dit « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ » Si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement, ou ils diraient certainement Dieu. Donc les polythéistes croyaient en Dieu, mais croyaient en Dieu à leur façon. Là est le problème. Depuis qu'Adam a été créé, il est clair que le vrai culte a toujours été celui du Dieu unique, du Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les hommes et tout ce qui les entoure. Et puis avec le temps, on a eu tendance à déformer, ou bien on s'est fait de Dieu une image qui a permis certaines déviations. Par exemple, si vous lisez Sourate Nuh dans le Coran, une sourate dédiée à Noé alayhi salam, on parle de Wud, de Yasua, de Yarut, oui. Ya'uq et Nasr. C'était des personnages qui ont bel et bien existé.
À l'origine,
existé.
C'était des hommes.
Des hommes qui ont existé juste après Noé alayhi salam et c'était des gens vertueux. Donc pour honorer leur mémoire, on a érigé à leur mémoire des statuettes, des stèles qu'on a commencé avec le temps à adorer. Et ce sont devenus avec le temps des divinités. La même chose s'est produite avec les Arabes. Nous avons peut-être dû le dire dans certaines de nos émissions. Alors en un premier temps, il y a eu une période de disette. Les gens ont été obligés de quitter la Mecque. On a emporté avec soi des pierres de cette terre sacrée, tant aimée, etc. Et puis la nostalgie faisait que les gens sortaient ces pierres pendant la période du pèlerinage. Avec le temps, on s'est mis à tourner autour pour simuler le tawaf, le tour autour de le Kaaba. Et puis il y a eu en parallèle, donc là, le fétichisme commence à prendre place. Donc nous avons toute une partie du monothéisme qui a été banni de la mémoire populaire. Et puis avec le temps, il y a un personnage, une personnalité appartenant à la tribu de Khouza'a qui, lors d'un voyage à Al-Balqa du côté de Ordon, de la Jordanie actuelle, a vu des gens en pleine adoration, enfin en train d'adorer des idoles, des statuettes. Il a été subjugué par cela, il a pris avec lui, on lui a donné une idole qui était Hubal. Et c'est comme ça que l'idolâtrie a pris forme dans cette terre d'Arabie ou dans l'ancêtre même de Kaaba, qui est à l'origine la maison sacrée de Dieu, le premier temple à avoir été bâti, édifié pour adorer le Dieu unique. Allahu ladhi la ilaha illahu.
Donc Dieu a toujours existé.
Oui, c'est évident, Malika, mais le problème qui se pose, c'est que c'est vrai, bon, comme dit Kamel, à l'origine de la création, même quand on parle de l'Éden, on dit qu'on était dans le véritable monothéisme, même Adam, il n'était pas question ni de polythéisme, ni d'anthropomorphisme, etc. Et on parle d'une période, d'un âge d'or qui aurait duré environ 10 générations. Et à partir de là, comme il dit, des gens de bien ont été, entre guillemets,
divinisés,
idolâtrés dans le sens physique du terme. On a confectionné des idoles, bon, peut-être pour les vénérer. Mais au fur et à mesure, je pense que la question fondamentale, c'est un peu par rapport à l'érosion d'un capital symbolique originel qui, avec le temps, bon, c'est des phénomènes cycliques, se perd, donc l'image de Dieu, la représentation du divin, avec le temps, a dû s'éroder quelque part. Je pense que c'est ça la question fondamentale.
Mm-hmm. L'image a dû s'éroder pour ensuite garder l'image...
Non, pour prendre une forme tout à fait contraire à celle qui a été édictée ou préconisée tout simplement par Dieu. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous sommes censés maintenir cette flamme qui est la relation entre nous et Dieu, la maintenir, la raviver autant que faire
d'où
se
la
peut,
répétitivité
des gestes, des cultes, etc. Voilà. Pour garder justement cela, non seulement pour soi, mais pour les générations qui viennent. Mmh. Et c'est aussi pour cela que nous n'avons pas le droit de nous laisser entraîner dans des sentiers qui peuvent créer des innovations. Une petite chose en amenant une autre, c'est l'effet boule de neige, et vous allez vous retrouver au bout d'un certain temps carrément à côté de ce qui a été édicté initialement.
Absolument.
Pourquoi ? Parce que ça manquait de phénomènes, de phénomènes surnaturels, l'homme avait besoin de preuves
Bon, là, c'est vrai qu'il y a un moment où il n'y a pas une constante, comme vient de dire Sikamel, une constante réactualisation. Cette tension de la science divine qui est en permanence dans le discours religieux, il y a des moments de passage à vide où on assiste à des dérives, donc probablement même les idoles, c'était peut-être à la limite une technique de mémorisation pour se représenter ou se souvenir de Dieu, mais avec à la longue, ça a pris d'autres significations.
Parce qu'il y a toujours eu des catastrophes naturelles dont l'homme ne saisissait pas la portée.
Vous savez, sur le plan religieux, soit vous vivez pleinement votre foi en Dieu, soit vous allez avoir tendance à utiliser des placebos, des subterfuges, pour remplacer, pour pallier justement à un manque, tout simplement. Alors, le vrai croyant, c'est celui qui va vivre sa foi, que ce soit de manière isolée ou avec d'autres corps légionnaires. Et puis, celui qui n'a pas atteint ce degré va avoir tendance à utiliser des substituts. Les vrais croyants sont des gens qui sont véridiques, qui évoquent Dieu, qui sont bons avec les autres, mais tout cela est très difficile. Ceux qui sont plus ou moins faux, entre guillemets, vont vouloir faire de la gymnastique, remplir l'œil des autres avec des gestes, avec des cultes qui n'ont pratiquement aucun fondement.
Le monothéisme s'est installé avec le judaïsme, c'est ça ?
Non, quand on parle de monothéisme, on parle d'Adam, tout simplement.
Ah,
on parle de Chit,
c'est pour ça
on parle
que je
de
dis
Noé.
Qu'il y a eu, entre le monothéisme originel, il y a eu des passages d'occultation de cette dimension, et après on est revenu au monothéisme,
c'est-à-dire,
au bout de milliers d'années, bien sûr.
C'est-à-dire qu'avec le temps, quand les choses atteignent un degré de dérive qui n'est plus tolérable, Dieu envoyait des messagers.
Des messagers.
Qui restauraient le monothéisme. Mmh. C'est ce qui s'est fait avec Abraham, c'est ce qui s'est fait avec Moïse alayhi salam, et c'est ce qui s'est fait avec Mohammed alayhi salam, vu que Jésus alayhi salam n'est venu qu'en tant que réformateur de la loi de Moïse.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment appelé les gens à croire en Dieu, il a juste appelé les gens à adorer Dieu de la manière la plus juste possible, tout simplement. Donc, la dérive, elle est là, c'est-à-dire que nous allons perdre des repères qui vont faire que nous allons nous fier à ce que certains qualifient d'éthique de situation, c'est-à-dire que la norme n'est plus ce qui a été édicté, approuvé ou désapprouvé par Dieu. La norme, c'est tout ce qui a été approuvé par le public, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de convention.
Oui, ça devient une religion populaire.
Oui, une religion publique, une religion populaire, quelque chose qui a été décrété par tous comme étant bonne. Il y avait pratiquement 360 idoles dans l'enceinte même de la Kaaba, et le fait était admis par tous. Donc c'était ça la norme. Mmh. Et actuellement, par exemple, nous croyons tous en Dieu, mais cette foi peut comporter des faiblesses quand vous voyez des gens aller, par exemple, rendre visite à la tombe de Sidi Abdurrahman, Allah yarhamou, qui est un homme pieux, un savant, etc., et de voir des gens l'invoquer. Mmh. « Sidi Abdurrahman, atini kda, donne-moi ceci, guéris-moi de telle maladie, etc. » Mais ce n'est pas Dieu. Quand on rend visite à Sidi Abdurrahman, et on a le droit de l'appeler Sidi, Sidi, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme avec un mécréant. Mais on a le poids, un bon musulman, on a le poids de lui dire Sidi. Donc, quand vous allez là-bas, vous êtes censé aller là-bas pour prier Dieu d'être miséricordieux envers ce savant, envers ce personnage. Envers cette personne qui a tant donné de son temps, de sa vie, etc. Pas l'inverse. Ça aussi, c'est une forme de déviation qui entraîne vers l'associationnisme, shirk, qui n'est pas pardonné par Dieu, attention. C'est un crime très, très grave aux yeux de Dieu.
Oui, c'est une forme de psychologie, d'accompagnement. Comme le monde occidental va vers les psychiatres et les psychologues, peut-être que nous, autour de cela,
ça ne justifie pas.
Qu'il y a une dimension psychologique, psycho-affective. C'est évident. Mais par rapport à ce que dit Kamel, c'est encore par rapport au, disons, au corpus religieux, contrairement à des pratiques qui sont beaucoup plus populaires qu'autre chose. Mais ce qu'il faut dire aussi, qui est aussi quand même essentiel, c'est que chez le peuple en général, quand on n'a pas une approche scientifique de la religion, c'est qu'on a besoin toujours de concret, d'où encore une fois ces pratiques un peu qui ne sont pas tout à fait orthodoxes, entre guillemets, pour essayer de rester un peu dans ce qui est à un autre niveau.
C'est la fragilité de l'homme aussi.
Oui, il n'y a pas que ça. C'est la faiblesse fait que l'on peut avoir recours justement à ce type de comportement ou de pratique. Parce qu'on a... On a envie de concrétiser nos desseins le plus tôt possible. Donc, on a recours à toutes sortes de manœuvres, de pratiques. Et puis, il y a aussi, comme le disait tout à l'heure Saïd, l'image que nous avons de Dieu. Alors, l'image que nous sommes censés avoir de Dieu, c'est qu'autant il est miséricordieux, autant il est dur en châtiment. Inna Allaha ghafurun rahim. Les gens, quand vous leur dites, par exemple, je reviens à cette manie qui consiste à rendre visite à des temples de savants que certains commencent actuellement, tout en étant musulmans, à qualifier de saint patron, alors que cette idée même, cette notion de saint patron n'existe pas dans la doctrine musulmane, elle est carrément bannie. Nous n'avons qu'un seul patron, c'est Dieu. Les gens vont là et si vous leur dites quoi que ce soit, ils vous diraient: l'important, c'est ce que j'ai dans le cœur, niyahiyasa. Il est vrai que l'intention est primordiale, mais elle ne justifie pas de faire n'importe quoi.
Les saints patrons ont eu un rôle primordial, c'est de nous rappeler que Dieu existe et qu'il faut l'adorer. Donc, c'est une forme de reconnaissance.
Ils nous ont surtout enseigné que notre relation avec Dieu n'admet pas de demi-mesure.
Et Malika, en plus, le grief n'est pas à faire comme au savant, Camille, au savant ou au saint patron ou au wali, mais plutôt aux gens, comment ils les ont perçus plutôt.
Mais des phénomènes qui existent depuis de longs siècles, il est difficile d'éradiquer, il est difficile de... Bon, on peut donner la vie, mais ça existe.
Essayer
de comprendre le pourquoi et le comment
Nous sommes une nation qui dit à celui qui a bien agi, tu as bien agi, et à celui qui a mal agi, tu as mal agi. C'est-à-dire que quand nous parlons de Dieu, nous sommes censés parler de Dieu, nous sommes censés concevoir Dieu, nous sommes censés l'adorer comme lui le veut, non comme nous le voulons. Oui. C'est à partir de là, nous n'avons droit à aucun type d'écart. Là où il y a un écart, nous tentons d'y remédier par la manière douce, c'est-à-dire billati hiya ahsan, et non par la manière forte.
Comment vous faites quand il y a un saint patron qui est là depuis 4 siècles et qui est visité par des générations qui se sont succédées? Comment vous arriverez un jour à détacher
ces gens? C'est un travail de très longue haleine. Si je me trouve, par exemple, dans une... Parce qu'il m'est arrivé de visiter de vieilles mosquées un peu partout en Algérie. Et quand j'arrive devant une tombe, moi, si je vois une dame âgée en train de lui dire « Ya Sidi Flan, atini kada, ya Sidi Flan, brini, zoujli, bente », etc. Et c'est généralement les mêmes prières qu'on entend. Moi, je me mets devant elle ou à côté d'elle et je commence à dire « Allahumma gfir lahu, Allahumma arham », etc. C'est-à-dire que j'essaye peut-être de donner un enseignement par la manière dont je prie Dieu pour ce saint homme, pour ce « wali min awliya illah ». Pas l'inverse.
Mais pour conclure, je pense que la question, Malika, c'est surtout comment on perçoit Dieu, disons le Dieu dans tous ses attributs. C'est ça, je pense, la pierre angulaire concernant tout ce débat et toute cette question par rapport à la science et les pratiques populaires.
Alors, nous avons parlé aujourd'hui, messieurs, de l'image de Dieu dans l'expérience religieuse. On n'a pas tout dit, évidemment. Nous y reviendrons donc dans les semaines qui viennent. Merci de votre attention. Merci à vous, messieurs. À mes auditeurs, on se retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine à la même heure.
Inch'Allah.